rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.
Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette nouvelle émission de rencontre. Alors nous parlerons aujourd'hui de l'Afghanistan, c'est un pays que nous n'avions pas encore traité et pourtant il fait la une de l'actualité depuis plusieurs années et notre invité le connaît parfaitement. Bonjour Gérard Cardone.
Bonjour.
Alors Gérard Cardone, vous êtes un écrivain engagé, vous avez déjà publié une vingtaine d'ouvrages. Les premiers étaient consacrés à votre Alsace natale, à laquelle vous êtes très attaché. Mais vos derniers livres ont évoqué les drames qui ont ensanglanté le monde au cours des dernières années. D'abord la Bosnie, puis l'Algérie. Et il y a un fil conducteur qui les relie, car ils ont presque tous été consacrés à un combat qui vous est cher, celui des femmes qui, en terre d'islam, sont souvent opprimées, victimes de préjugés machistes au nom de la religion. Alors vous avez écrit « La Sultane debout », consacrée à la lutte des femmes algériennes contre l'obscurantisme. Vous venez de publier « Selma, une femme libre », qui est un éloge de l'émancipation des Tunisiennes. Et puis, et cela nous ramène à l'émission d'aujourd'hui, un livre qui était sorti pratiquement au lendemain du 11 septembre et qui a eu un très grand succès, « La nuit afghane », publié aux éditions Hirley. Rappelons rapidement le contexte pour nos auditeurs. L'Afghanistan était alors dirigé par les horribles talibans depuis 5 ans. Un silence de plomb régnait dans nos médias à propos du régime de Kaboul, sans doute le plus répressif de tous les régimes islamistes. Et contre ce régime, un homme, le commandant Ahmad Shah Massoud, combattait à la tête d'une guérilla dans les montagnes du Panjshir. Alors après, l'histoire s'est accélérée, tout le monde le sait. Il y a eu d'abord l'assassinat de Massoud par Al-Qaïda, puis le 11 septembre, organisé par Ben Laden, qui était hébergé par les talibans, l'intervention américaine, la libération de Kaboul. Et depuis, hélas, hélas, la guerre n'est pas finie et les forces de l'OTAN sont confrontées à un terrorisme redoutable. Mais commençons par parler de votre livre. Le héros vous ressemble beaucoup. Je voudrais vous demander d'abord où finit le récit autobiographique et où commence le roman dans ce livre.
Eh bien, je crois que je vais un petit peu revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, l'un de mes combats en littérature est les droits des femmes. Et c'est à travers ce droit des femmes qu'un jour j'ai été invité à travers une association mondiale pour aller défendre les droits des femmes afghanes à Douchanbé. Et si vous voulez, c'est à partir de ce récit, de cette rencontre faite à Douchanbé. Douchanbé, je le rappelle, est la capitale du Tadjikistan, juste au nord de l'Afghanistan. Or, il était impossible d'aller faire un tel séminaire à Kaboul avec les talibans pour défendre les droits des femmes afghanes. Donc, nous sommes allés à Douchanbé. Et à partir de là, j'ai raconté tout ce qui s'était passé en transposant sur le mode romanesque cette rencontre, puis le départ du héros du livre, qui au passage, je le rappelle, s'appelle Dominique, et Dominique, tout le monde le sait, est un prénom bisexuel. Donc c'est aussi bien un homme qu'une femme, du moins en français. Et il va à la rencontre de Massoud avec un hélicoptère envoyé par le commandant, et tout ceci est vrai, mais je répète, c'est traité sur le mode romanesque pour que les gens lisent une belle histoire.
Très bien. Alors, Gérard Cardone, je reviens toujours à votre livre. Il y a une très belle photo de couverture qui représente un petit enfant à côté d'une femme dont on devine même pas le regard, puisqu'elle porte un tchadri bleu avec le fameux grillage de tissu au niveau des yeux, hein, la burqa. Et cet accoutrement était obligatoire sous les talibans. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs quels étaient les autres interdits sous ce régime? Qu'est-ce qui était imposé aux femmes par le fameux ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice?
Alors le problème, c'est que si l'émission ne suffirait pas à donner les interdits, on pourrait simplement résumer l'interdit majeur pour les femmes, c'est de ne pas exister. C'est aussi simple que ça. Alors je pourrais énumérer une liste: interdiction d'aller à l'école, interdiction d'être soigné, interdiction de sortir seul, et ainsi de suite, interdiction d'écouter la musique, interdiction. Mais ce serait une litanie. La seule chose à laquelle elle avait droit, c'est d'être à la maison. C'était tout.
Alors, dans votre livre, votre héros dénonce vertement déjà le politiquement correct, hein, le silence occidental, et vous écrivez « Je dois avouer que mon propre pays trahit depuis quelques années cette vocation de défense des droits de l'homme ». Gérard Cardone, est-ce que cela a vraiment changé? Et est-ce qu'il n'y a pas la même hypocrisie aujourd'hui lorsque des intellectuels défendent le foulard islamique au nom du relativisme culturel, entre guillemets?
Oui, alors là, au risque peut-être de choquer les auditeurs, ma position, elle est très claire. Dans mon pays, je précise bien, dans mon pays, je suis hostile, farouchement hostile au port du voile, qui pour moi est un acte de soumission et un acte de dénaturer la femme. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères sont bâties, elles sont battues pour arriver à cette égalité, cette parité où une femme est libre de sortir comme elle le veut, de vivre comme elle le veut. Et c'est contre ça que je suis absolument opposé. Je précise bien que lorsque je vais dans les pays, je sors beaucoup en Afghanistan, dans les pays du Maghreb, en Afrique, etc., je respecte ce qui se passe sur place, même si j'ai mon opinion. Mais dans mon pays, j'ai le droit d'avoir une opinion. Il vient de se passer un incident que je considère non pas regrettable, mais humiliant pour les droits de l'homme en France. Une dame a été condamnée parce qu'elle avait interdit à une personne d'entrer avec un voile dans un hôtel. Eh bien, nous sommes en France, dans les pays des droits de l'homme. En donnant raison à cette dame qui portait ce voile, on donnait raison aux intégristes.
Alors, Gérard Cardone, revenons à l'Afghanistan. Aujourd'hui, malgré le changement de régime, les témoins disent que beaucoup, beaucoup de femmes afghanes portent toujours cette tenue, la burqa. Alors, on se demande, vous y retournez souvent, est-ce qu'elles ont vraiment été émancipées?
Alors, le mot émancipé est très difficile. D'abord, si vous voulez, il y a tout de même toute une tradition. Il est difficile, dans un trait de plume, de régler une tradition. Deuxièmement, le trait de plume n'existe pas. C'est pas vrai. Il y a nulle part, il a été écrit que le tchadri était interdit, etc. Les femmes sont voilées dans la rue. Alors, plus vous vous éloignez de la capitale, plus c'est un fait incontournable. Incontournable. Il est vrai qu'à Kaboul, on commence à voir quelques jeunes femmes le visage dévoilé. Mais la majeure partie du pays est toujours voilée, et d'ailleurs c'est pas difficile. Je me souviens d'une jeune afghane à qui je travaillais dans le cadre d'un séminaire à Kaboul, et je lui ai dit, mais quand tu es avec moi, tu vis normalement, on plaisante, on mange ensemble, on défend les mêmes droits. Dès que tu sors de l'enceinte d'où nous sommes, tu mets ton tchadri. Elle m'a dit la chose suivante, toi Gérard, tu rentres dans ton pays, moi, je rentre dans mon quartier, les talibans me connaissent. Et les jeunes femmes sont très souvent vitriolées.
Alors, c'est assez horrible. Nous allons parler de la situation actuelle de l'Afghanistan en deuxième partie d'émission. Mais Gérard Cardone, pour faire un peu la transition, malheureusement, on manque de temps. Mais j'aimerais que vous évoquiez pour nos auditeurs la figure du commandant Massoud, parce que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Votre livre en parle. Et je me réfère surtout à l'introduction que Massoud Shah a écrite pour votre livre. Et j'aimerais que vous commentiez ces paroles. Il disait notamment « Un islam modéré reconnaît la liberté individuelle pour l'homme et pour la femme ». Comment concevait-il cet islam modéré? Est-ce que vous pourriez nous le résumer en 2-3 minutes?
Oui, alors moi je sais que c'est une des questions qui m'avait beaucoup interpellé, je lui ai posé, je lui ai dit mais comment vous concevez cela? Si un jour vous arrivez au pouvoir à Kaboul, ce que j'espère, comment concevez-vous cette liberté individuelle pour l'homme et pour la femme? Et notamment, naturellement, il s'est beaucoup plus orienté sur la femme, parce que pour l'homme, en Afghanistan, l'homme a tous les droits, la femme n'en a aucun. Donc il s'agit de faire remonter dans la balance le plateau de la femme. Alors c'était, voilà, une chose simple, la femme a le droit d'être éligible et d'être électrice. Ça n'a l'air de rien pour nous, c'est d'une évidence, mais là-bas c'est une révolution. Nous avons mis à Douchambé, lorsque nous avons fait notre réunion, nous avons élaboré une charte des droits des femmes afghanes, une dizaine de droits extrêmement élémentaires. Il est le premier à l'avoir signée. Et nous avions la prétention de la faire inscrire dans la Constitution, ce qu'on n'a toujours pas réussi. Autrement, par exemple, également sur un autre point, strictement personnel, mais qu'il voulait mettre dans la loi, lui-même n'avait qu'une épouse.
Ah, c'est intéressant, oui.
Il faut que la femme soit d'accord pour épouser le mari. Ce sont peut-être des choses anodines pour nous, mais là-bas, c'était une révolution.
Absolument. Dans votre livre, d'ailleurs, il y a un passage où vous évoquez un mariage qui se passe en zone libérée à l'époque, hein, dans le Panjshir, et où les deux mariés ne se connaissent pas avant la cérémonie. C'était quelque chose de courant.
J'étais personnellement invité à la cérémonie, c'est-à-dire que j'étais avec les hommes sur la place du village et on dansait avec les fusils, on tirait, en espérant qu'on n'ait pas un avion qui nous barre des bombes, puisque c'est un peu l'habitude en ce moment. Hein. Et les femmes étaient dans une maison à côté où elles festoyaient. Et les deux mariés ne se connaissaient pas.
Voilà, donc le poids de la tradition est très fort. Et en gros, ce que je retiens, c'est que si Massoud, malheureusement, donc, a été assassiné, mais s'il avait été vivant au moment de la libération de Kaboul, peut-être les droits des femmes seraient plus avancés.
je pense qu'il en aurait été un héros dans le sens de l'homme qui fait une promotion.
Très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, je vous rappelle, donc nous parlons du livre de Gérard Cardone, donc la nuit afghane. Je rappelle aussi donc que ce livre a été publié juste au lendemain du 11 septembre, donc il décrivait la situation à l'époque. D'après nos premiers échanges, je vois que malheureusement, il y a des pesanteurs très, très, très lourdes et que ça change lentement pour les femmes afghanes. Nous allons parler en deuxième partie plutôt de la situation géostratégique du pays. Gérard Cardone, surtout, vous ne raccrochez pas. Vous restez donc au bout du fil. Et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 2 minutes. Eh bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons donc pour la deuxième moitié de cette émission Rencontre. Je rappelle que mon invité est M. Gérard Cardone, écrivain. Nous parlons de son livre « La nuit afghane » qui a eu un très grand succès donc en 2001. Il a été publié juste au lendemain du 11 septembre. À ce moment-là, on parlait beaucoup de l'Afghanistan et le commandant Massoud, qui a préfacé votre ouvrage, Gérard Cardone, avait été juste assassiné. Alors, vous nous entendez toujours ?
Oui, très très bien.
Parfait. Alors, après l'assassinat de Massoud, les Américains ont pensé trouver à sa place un homme pour diriger le pays, Hamid Karzai. Alors lui, il représentait plusieurs avantages. C'est un Pashtun, comme l'ethnie majoritaire est proche donc du Pakistan voisin. Et vous rappelez dans votre livre combien le Pakistan a sans arrêt intrigué en Afghanistan et surtout soutenu donc les talibans. Or, Hamid Karzai a rencontré en août dernier le président pakistanais Pervez Musharraf. Les deux pays ont convenu de coopérer. Qu'en pensez-vous ?
Bon, comme vous avez dit fort justement, c'est un Pashto. Donc et la partie ouest du Pakistan est peuplée essentiellement de Pashto, où il y a les plus grands problèmes islamistes actuellement au Pakistan, c'est dans cette zone-là. C'est vrai que cette collusion, en quelque sorte, crée aussi une sorte d'alliance de fait. Mais je ne voudrais pas non plus occulter que M. Karzai a également été le plénipotentiaire à un moment donné, ça on l'oublie, on veut l'oublier, des talibans auprès du gouverneur du Texas qui s'appelait à l'époque George W. Bush. Donc si vous, c'est le serpent qui se mord la queue. Ceci dit, les rencontres avec le président Musharraf sont un petit peu tout de même logiques, puisque l'Afghanistan et le Pakistan vivent côte à côte, ont une frontière commune, frontière qui n'existe que sur le papier, il faut bien le dire, puisqu'elle divise le pays pashto en deux. Mais c'est un peu l'alliance avec le diable. Je me permettrai de faire un simple rappel historique. On a bien eu des alliances avec Hitler, on en a eu avec Staline, on en a bien actuellement avec le gouvernement communiste de la Chine. Je me permets de dire qu'au niveau des génocides organisés, ces trois pays sont tout de même assez symboliques. Donc il n'y a aucune raison pour que actuellement il n'y ait pas cette espèce de collusion entre les deux.
Alors, Gérard Cardone, je me réfère aussi à un appel de Hamid Karzai qui date donc du 9 septembre. Alors là, il a dit qu'il était prêt à accepter des talibans au gouvernement et à rencontrer le Mollah Omar, hein, l'ancien chef invisible de l'ex-gouvernement islamiste qui est en fuite. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant d'entendre tout cela ?
Ah, c'est très inquiétant. Ça prouve que d'abord, c'est tout le système afghan qui est comme ça. Il travaille un petit peu au niveau des loyal Shirga avec tous les chefs de village. Il n'y a pas de véritable élection parlementaire. C'est un mythe. On y a cru. Moi, j'ai assisté à des choses qui sont ignobles de la part de l'ONU. Hein,
par exemple.
Écoutez, je connais Massouda Jalal, qui était la candidate qui s'était présentée contre le président Karzai. Bon, elle a le droit, c'était normal. La seule femme, dans le nord du pays, on a vu les urnes remplies de Massouda Jalal qui était mis dans la rivière. Et devant les yeux des gens de l'ONU qui ne disaient rien. Et on a dit, parce qu'on voulait absolument donner l'illusion d'une élection démocratique. Ceci dit, c'était une des premières élections, et il faut reconnaître qu'elles ont eu tout de même lieu. Vous voyez, il faut faire un petit peu la part du feu.
D'accord. Alors, Gérard Cardone, on a l'impression quand même, depuis ces derniers mois, que la situation se détériore vraiment en Afghanistan. Il y a d'abord les pertes qui deviennent importantes pour les troupes de l'OTAN. Je crois qu'il y a eu plus de 150 tués parmi les troupes alliées rien que cette année 2007. Et puis les talibans utilisent maintenant couramment les méthodes propres au terrorisme islamiste. Attentats suicides, enlèvement de membres d'ONG, rançons, etc. Alors, je reviens à votre livre. Donc, c'était ce qui se passait avant 2001. Et là, vous décrivez une embuscade menée contre les talibans. C'était eux qui subissaient la guérilla à l'époque. Actuellement, c'est l'inverse. C'est eux qui font de la guérilla. Comment expliquez-vous leur succès ?
Écoutez, c'est un petit peu c'est le principe de l'huile et de l'eau, hein, où quand l'huile remonte toujours à la surface. Quand les talibans dominaient le pays, ils avaient 90% du territoire sous contrôle, il est évident que pour les contrebattre, il n'y a pas d'armée officielle. Donc ce n'était que des mouvements, entre guillemets, de guérilla, celles que le commandant Massoud faisait contre lui, contre les talibans. Maintenant que le gouvernement des talibans a été abattu, il faut dire le mot, par les Américains, c'est à leur tour de se retrouver un petit peu rancogné dans tous les coins un peu perdus du pays et de mener une guérilla. C'est toujours un petit peu l'inverse. Le pouvoir en place, il est contrebattu par des mouvements souterrains. Le problème est que les mouvements talibans actuellement jouent un petit peu, je dirais, surfent un petit peu sur la vague des mécontentements. On dit qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été déversé. C'est en partie vrai, c'est en grande partie faux. L'argent n'est pas toujours débloqué officiellement, jamais concrètement sur le terrain. Et deuxièmement, je peux vous dire que, par exemple, le village où je vais construire ma deuxième école, quand je suis arrivé, j'étais un ovni. J'étais un homme du troisième type. Mais qu'est-ce que c'est, ce gars? Il n'avait jamais vu d'occidentaux. Et s'ils n'ont pas vu d'hommes, croyez-moi qu'ils n'ont jamais vu un dollar.
Vous pensez que le fait, par exemple, que l'on ait une guerre, comme on dit, menée à distance, un peu presse-bouton, avec des bombardements aériens, etc., et pas de contact vraiment des Occidentaux avec le terrain, ça explique aussi les échecs?
Ah, mais totalement. Enfin, moi, bon, pour des raisons strictement personnelles, je pense que le type de guerre maintenant, de grandes armées qui s'opposent, c'est un peu révolu. Maintenant, c'est des guerres avec la population ou contre la population. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de choix. Et si vous voulez être avec la population, il faut vivre avec. Il faut arrêter d'avoir ces unités qui circulent avec des chars sur les routes. Il faut rentrer dans les villages, aller au contact des villages. Enfin, c'est un peu mon opinion.
Alors, Gérard Cardone, on va évoquer, bien sûr, en fin d'émission, tout ce que vous faites pour ce pays, parce que si je vous ai invité dans ma série, ce n'est pas seulement en raison d'une expérience passée, quand vous aviez été en Afghanistan sous les talibans. Il faut dire que vous y allez, que vous y retournez souvent. Donc, on va en parler. Mais avant, j'ai une toute dernière question à propos de tous les pronostics sombres que font les commentateurs sur l'Afghanistan. Il y a un sujet qui vient souvent sur le tapis. J'aimerais que vous nous donniez votre avis. C'est celui du trafic de drogue. On dit que l'Afghanistan en est le premier producteur du monde, avec 6000 tonnes d'opium, d'après l'ONU, l'année dernière. Pourquoi, à votre avis, ce trafic, et peut-on éradiquer ce phénomène?
Alors, première question, pourquoi? La première, elle est bassement économique. Hein, un paysan, d'abord c'est un pays très pauvre, l'Afghanistan, ce ne sont pas des grandes plaines à blé, etc. C'est un pays pauvre. Et quand un paysan il veut cultiver quelques arts de terrain, s'il fait du blé, il n'a pas de quoi nourrir sa famille, au prix où c'est. Par contre, s'il fait de l'opium, il est sûr de vendre et il aura de l'argent. C'est aussi basique que c'est les mêmes problèmes que nous trouvons en Amérique latine, hein, ou en Amérique centrale. Ceci dit, maintenant, peut-on éradiquer le phénomène? On va tomber encore dans un domaine économique. Je n'ai jamais entendu ou vu une entreprise qui produit des produits qui ne sont pas consommés. Or, le premier consommateur de l'opium afghan, c'est le monde occidental. Alors, commençons à régler le problème chez nous. Je suis persuadé que quelqu'un ne produira pas de l'opium s'il n'arrive pas à le vendre. Vous voyez, c'est peut-être un peu schématique, mais...
Non, mais c'est clair.
Il faut qu'on commence à balayer un peu devant chez nous. Hein.
Parfait. Alors, donc, ma dernière question, eh bien, c'est justement d'évoquer quand même le travail de fourmi des ONG ou de particuliers pour aider les Afghans à sortir de cette violence, donc en encourageant plutôt l'éducation, la culture. Dans les 4-5 minutes qui nous restent, est-ce que vous pourriez raconter aux auditeurs quelles œuvres vous avez soutenues là-bas et peut-être nous donner des adresses ou des numéros de téléphone s'ils veulent vous aider dans ce que vous entreprenez?
Bien, alors si vous voulez, la première, comment j'ai démarré, moi j'ai l'habitude, quand je vais sur le terrain, dans des situations difficiles, moi je m'engage pas seulement en écriture, mais je reste. Je fais comme ça en Bosnie, j'ai combattu en Bosnie avec mes amis bosniaques, à Srebrenica, et Vukovar, etc. Et là, en Afghanistan, quand j'ai vu le commandant Massoud, après avoir vu la zone qu'il contrôlait, je lui ai dit, moi je reste avec vous. Ça me plaît, je reste avec vous, mais je suis un peu comme ça, mes amis qui me connaissent savent comment je réagis. Et il m'a dit, vous savez, j'ai pas besoin d'une Kalachnikov de plus. Mais j'ai besoin qu'on parle de nous. Alors je lui ai dit, écoutez, ça, je crois que je sais faire. Je vais donc écrire un livre sur vous, votre combat, celui des femmes afghanes. Mais maintenant, j'aimerais vous poser une question. Où trouvez-vous le temps et l'argent, vous qui êtes tout seul, parce que le monde occidental n'est pas Massoud. Il faut tout de même bien le répéter, notamment le gouvernement français de l'époque. Hein. Il faut avoir le courage de le dire. Hein. Je dis, où trouvez-vous le temps et l'argent pour vous occuper de ces enfants que j'ai vus sous des tentes, en train de faire de l'école? Et il m'a dit, vous savez, l'Afghanistan sera un jour libre. Et l'avenir de l'Afghanistan, ce sont ses enfants. Alors je lui dis, bien, je vous ferai une école. Très modeste, moi je suis un modeste écrivain, je fais des rencontres, je reçois des dons, je vends mes livres, etc. Et j'ai dit, je vous ferai une école. Et j'ai bâti l'école qui a été inaugurée 4 ans après la mort de Massoud, donc en 2004, 2005, pardon, a été inaugurée dans sa vallée, à Tawak, l'école de Panjshir, pour 600 petits-enfants. Puis, pris un peu dans le mouvement, j'ai dit une promesse s'engage. Je suis allé à Bamiyan, où j'étais écœuré, comme beaucoup de monde, par la
Là
chute
où
des
les fameux
Bouddhas.
Bouddhas ont
Ah bah,
été dynamités, bien sûr.
voilà. Et là, j'ai un accord avec la seule femme gouverneure d'Afghanistan, Madame Habiba Sarabi. J'ai un accord avec elle pour construire une deuxième école dans sa province. Et donc, maintenant, l'école commence à être construite et j'espère l'inaugurer au printemps, disons, de l'année prochaine. Là, il y aura environ 600 petits garçons et petites filles, je tiens à préciser. Et parallèlement, parce que je considère que la culture, c'est le terreau, si je puis me permettre, pour faire sortir un peu de démocratie, esprit de liberté, etc. J'ai créé avec des amis, j'ai créé une salle d'art à la National Gallery de Kaboul qu'on a inaugurée en novembre dernier.
Et vous organisez aussi, je crois, des expositions de photos, d'œuvres dans
Voilà,
votre
je
Alsace
viens.
natale.
Ben hier soir, vous voyez, j'ai dîné avec des amis afghans, dont un peintre afghan qui est à Paris, Paxad, hein, et j'ai organisé une 2 mois d'exposition à Ribeauvillé, mais j'en fais régulièrement. J'essaie de combiner culture, à la fois écriture, art, etc., pour sensibiliser le public à cette action.
Alors, deux petites questions pour finir. D'abord, je disais, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez une adresse de site internet ou un numéro de téléphone pour les gens qui voudraient aider votre action en Afghanistan?
C'est très très simple, je vous donne mon numéro de téléphone, de toute façon ils pourront repasser par vous, puisque vous les avez.
Absolument.
Alors mon numéro c'est 03 88 44 06 74, et mon site internet où il y a une boîte de dialogue, c'est www.gérard, sans accent, trait, le trait du 6, Cardone, CARDONE.
Parfait.
Voilà.
Et toute dernière question, vous allez vous retourner souvent en Afghanistan, vous entendez ces affaires d'occidentaux qui sont pris en otage, vous n'avez pas peur?
bon, vous savez, à partir de ce moment-là, je prendrai pas ma voiture pour circuler en France. Bon, je suis prudent, j'ai une certaine habitude, je suis prudent, mais face à l'imbécilité, vous savez, je suis désolé, dans un coin de Paris, vous avez l'imbécile aussi qui vous attend au coin de la rue, hein. Bon, je pars pas sur ces données-là, sinon je ne ferai rien.
Parfait. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo pour votre courage. Merci donc d'avoir été notre invité ce matin. Et chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.
Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.